Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page Marie-Pierre Soriano au Co-Monde de votre magazine littéraire et musical. Chaque semaine, nous avons rendez-vous pour 30 minutes de partage dès lors qu'un roman, une bande dessinée ou un album jeunesse m'auront permis de m'extraire de la surface de la Terre. Alors avec vous, je partage et pour y parvenir le plus fort que je peux, je vous propose une chronique sur l'ouvrage, je vous propose aussi dès que c'est possible d'interviewer l'auteur et puis et enfin je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer en toute subjectivité mes émotions de lecture par d'autres émotions, histoire de ne pas me répéter à l'infini en qualificatifs élogieux, histoire d'avoir l'espoir de toucher celles et ceux qui ne lisent pas forcément mais qui entendent mieux encore la musique, histoire enfin de sortir des entre-soi purs. Ceci étant posé, je suis très fière de vous annoncer que Jean Materne sera mon invité d'ici une poignée de minutes. Il est l'auteur de plusieurs romans, nous y reviendrons. Mais celui dont nous causerons aujourd'hui s'intitule Le Bleu du Lac et il est un pur ravissement. Il est son tout dernier roman et il vient de sortir aux éditions Sabine Weisspacer. Il est aussi totalement dans l'esprit de l'émission puisqu'il y est question d'amour, de secret et de musique. Avant de vous en dire un peu plus, laissez-moi vous faire écouter le titre qui est comme une sorte de noyau central du roman, comme si tout tournait autour de son axe à lui. C'était l'intermezzo opus 117 numéro 2 de Brahms interprété par Arthur Rubinstein. Aujourd'hui dans Rock'n'Page, cet intermezzo, car il est le centre en somme de ce roman époustouflant que vient de signer Jean Materne. Il s'intitule Le Bleu du Lac et il est édité chez Sabine Weisspacer. Cet intermezzo dont Viviane Gregg, la narratrice du Bleu du Lac, elle le définit ainsi. Je cite... Cette mélodie qui n'en est pas une, qui capte une idée sans jamais la nommer, dans un mouvement de balancier, la laisse repartir aussitôt, glissant vers l'apaisement et le silence. Et elle peut en parler si justement, car elle est elle-même une grande pianiste. Attendez que je vous explique. Viviane Gregg, grande pianiste, est mariée à Sébastien, qui lui est reporter culturel pour la BBC. Ils vivent au cœur de la bourgeoisie londonienne, s'aiment et ont traversé ensemble l'épreuve sans nom qu'est la perte d'un enfant. La leur, cette Laura, morte d'un accident domestique, le 11 septembre, il fallait le faire. Un accident le 11 septembre, m'entendez-vous? Bon, et quand on ouvre le roman, dès son incipit, on apprend, et donc je ne vous dévoile rien, que Viviane Gregg vient de perdre son amant, James Fletcher, qui lui était le grand critique de musique classique anglais, le grand critique médiatisé, celui qui, partant de rien, s'était fait une place tout en haut de l'échelle sociale. Sauf que Viviane et James étaient amants et qu'absolument personne n'était au courant de leur amour. Fou, leur amour intense. Ils avaient eu la force, tous les deux, de ne jamais prendre aucun risque. Ils avaient tous les deux accepté ce contrat-là et personne ne s'était mis entre eux. Ce qui réduit alors catégoriquement et radicalement Viviane à se débrouiller avec ce deuil absolument clandestin. Et voilà qu'un exécuteur testamentaire la contacte et lui explique que James Fletcher avait tout prévu, évidemment, et qu'elle est attendue le jour de ses obsèques à l'église pour y interpréter, et on y arrive, cet intermezzo de Brahms qui constitue en somme le début de leur relation. C'est autour de ce titre-là qu'ils s'étaient rencontrés. Et le roman entier repose sur le chemin qui relie la maison de Viviane et Sébastien à l'église. Nous sommes donc face à Viviane, à son tourment vertigineux qui nous raconte l'histoire, son histoire, leur histoire d'amour quand il commence par un grand A. Je vais vous faire une première lecture. Alors, c'est extrêmement compliqué de choisir un passage à lire parce que, en fait, les phrases sont immenses, mais vraiment immenses, parce qu'il s'agit vraiment du tourment intérieur de Viviane. « Je serai du son pur flottant au-dessus des têtes, au-dessus du cercueil de James, l'homme qui m'a prouvé qu'il était possible d'être parfaitement à sa place dans les bras d'un autre être humain, si parfaitement au bon endroit que cette envie de fuir ressentie pendant toute ma vie m'a abandonné. Mais je vais remonter quelques instants, je ne peux plus rester une minute de plus ici. En sortant, je vais trouver un banc à Green Park, etc. etc. » Voilà, les phrases sont immenses à la mesure du tourment et de l'agitation, je viens de vous le dire, du désespoir et de la déroute de Viviane. Un peu plus loin, on trouvera un autre passage qui est absolument merveilleux. « Ce sera mon petit enfer personnel, une façon d'expier mes fautes peut-être, en secret, seul, sur une de ces chaises en bois clair, disposées, dos à dos, au milieu de la plateforme. Si seulement je croyais à l'existence du péché et à la possibilité d'effacer mes fautes par un tour de passe-passe avec le bon Dieu. Si seulement j'espérais encore obtenir les joies de l'absolution et les vertus du pardon. Mais je connais le poids de mes actes. Je le connais au gramme près. Et à ce jour, je n'ai trouvé aucun moyen pour m'en délester. Peut-être parce que l'addition de nos fautes fait aussi le prix d'une vie. Et s'il reste quelque chose de la mienne, ce seront ces quelques notes que je jouerai pour lui tout à l'heure, en me souvenant de sa manière bien à lui de paraître le plus innocent et le plus attrayant des hommes quand il dégoulinait de sueur dans la lumière blafarde d'un gymnase poussiéreux. » Voilà, c'est des extraits de lecture du Bleu du Lac de Jean Materne qui vient de sortir chez Sabine Weiss-Pesseur. Le vertige est partout, la langue magnifique et l'écho, mon Dieu, si fort qu'il a été bien difficile de trouver comment vous le communiquer en musique.
Slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired, unhappy, bring down the government. Surprises. surprises. No alarms and no surprises, please.
C'était Regina Spektor qui reprenait une chanson évidemment de Radiohead, No Surprises. Aujourd'hui dans Rock and Page, pour vous parler plus près encore de ce personnage, celui de Viviane Gregg, la narratrice de Le Bleu du Lac, le dernier époustouflant roman de Jean Materne. Jean Materne que je reçois tout de suite d'ailleurs. Jean Materne, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Merci surtout pour Le Bleu du Lac. Je fais partie des gens qui ont eu la chance de lire Septembre, un de vos précédents romans paru chez Gallimard, et c'était en 2014. Et je peux donc dire que même s'ils se lisent tout à fait indépendamment l'un de l'autre, Le Bleu du Lac est intimement, étroitement lié à Septembre. Tout simplement parce que c'est le secret de Sébastien que vous donniez à voir en 2014 pour en venir à celui de Viviane en 2018, et que Viviane et Sébastien sont mari et femme, doublement arrimés l'un à l'autre, puisque depuis, on pourrait dire aussi, la mort de leur fille Laura. Est-ce que cette démarche signifie que vous n'en aviez pas fini, en somme, avec Septembre? Et est-ce qu'au moment de l'écriture de Septembre, vous savez qu'il y aurait, en somme, quelque part, Le Bleu du Lac?
Bonsoir et merci pour votre invitation et cette lecture des deux livres, en fait, parce que vous faites déjà le lien entre Septembre et Le Bleu du Lac. Non, je dois être honnête, je n'avais pas du tout à l'esprit au moment où j'avais mis le mot fin sur le manuscrit de Septembre que voilà, il y aurait un Bleu du Lac et la voix de Viviane, hein, qui est donc en effet l'épouse de Sébastien, qui est le narrateur de Septembre. Tout simplement, dans mon écriture, il y a toujours des petits cailloux que j'adore semer comme ça d'un livre à un autre. Et puis, quand j'ai entendu la voix de Viviane, parce que ça commence toujours un peu par comme une musique que j'entends dans ma tête, mes manuscrits. Du coup, pour moi, il était clair qu'il devait avoir ce lien entre les deux livres, mais qui, encore une fois, est quelque chose de un petit plus pour les lecteurs qui auraient lu les deux livres, mais qui réellement, je travaille beaucoup en fait sur ça, quand je fignole, comme on dit, mes manuscrits, quand je mets vraiment la dernière main à l'écriture des textes, je fais vraiment très attention au fait que les romans restent indépendants et que chaque lecteur peut les lire sans avoir lu les précédents.
Tout à fait. Alors vous travaillez aussi sur des matériaux bruts, alors qui là sont tour à tour les Jeux Olympiques de Munich en 72, une situation historique réelle, ça c'était pour Septembre, et puis là dans Le Bleu du Lac vous fondez tout autour et dans l'univers de la musique classique. Est-ce que vous tissez de la fiction autour de matériaux réels, bruts? Est-ce qu'il est là votre espace de création à vous?
Il y a toujours un rapport évidemment à la réalité, et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la tension entre le réel et la fiction, mais il y avait quand même une différence dans l'écriture, hein, pour moi entre Septembre, où j'avais quand même si j'avais des souvenirs de Septembre 72, j'avais 7 ans à l'époque, donc j'avais des souvenirs de petits garçons, mais j'avais un énorme travail de documentation à faire. Pour Le Bleu du Lac, il y avait un tout petit peu de documentation à faire, comme un peu dans tous mes romans. Il y a toujours eu un tout petit peu de documentation, de travail vraiment pour mettre au point certains détails, certains faits historiques ou des distances. Là, dans Le Bleu du Lac, il y avait cette question de du voyage à la fois intérieur, parce que c'est un monologue intérieur, mais aussi du voyage réel que qu'accomplit la narratrice, parce que c'est un voyage dans le métro. Donc il y avait la question, il y avait la question de la durée du trajet, de la distance entre les différentes stations de métro à Londres, des petites choses comme ça. Mais en ce qui concerne l'univers de la musique, je dirais, mais vraiment en toute modestie, moi j'ai une éducation musicale depuis que je suis vraiment tout petit, donc la musique, j'en fais et j'en écoute surtout beaucoup depuis que j'ai 6 ans. C'était assez naturel pour moi, en fait, de finalement plonger, comme dans le bleu du lac, de plonger dans l'univers de la musique.
Alors, est-ce que l'accident, le hiatus, le contretemps se trouve... alors là, en l'occurrence, c'est pas une question, il se trouve à la naissance de l'essentiel ici entre Viviane et James. Elle doit remplacer un soir au pied levé un jeune virtuose pianiste, et c'est de cet incident que Viviane deviendra la pianiste de renommée internationale et la monte éperdue de James. Est-ce que c'est un sujet qui vous obsède aussi, cela, ce hiatus, ce contretemps, cette seconde qui devait pas avoir lieu et puis qui va tout changer, en fait?
Oui, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver peut-être dans tous mes textes. C'est quelque chose qui m'obsède réellement, ces moments où, en fait, en faisant un pas de côté ou en ne le faisant pas, si j'ose dire, on change notre destin, en fait. Ces petits moments où on a le choix de faire un pas en avant ou pas, de choisir d'aller à gauche plutôt qu'à droite, ou voilà, comme de regarder dans les yeux de James et de se laisser séduire par cet homme, ou de résister. Et Viviane, elle ne sait pas pourquoi, voilà, a cédé à ce désir très très fort que cet homme James, qui est un homme assez étrange, loufoque, espiègle, cet homme exprimait donc assez presque brutalement son désir pour elle. Et puis voilà, pourquoi à ce moment-là Viviane cède, voilà, ça c'est un des mystères qui, en tant que romancier, m'obsède. Pourquoi parfois le destin comme ça bifurque à certains moments, et ça prend parfois en effet des secondes, en fait.
Une autre chose est très très forte dans votre roman et fait écho à d'autres textes, c'est le secret, en fait. Et là, en fait, vous l'éclairez de deux manière différente, puisque c'est un plus à la lecture pour les lecteurs qui le souhaitent, mais le bleu du lac et septembre se répondent, et on y est les témoins de deux secrets qui vivent à l'intérieur d'un même couple, qui se répondent aussi. C'était quelque chose que vous aviez envie de travailler quand vous avez commencé le bleu du lac?
Le secret, ouais, là aussi, est une des questions comme ça, en fait, qui est à la fois m'accompagne dans la vie et dans l'écriture. C'est à la fois le poids, ou je dirais peut-être de manière plus neutre, le rôle, en fait, quel est le rôle du secret dans nos vies, en fait, hein, de ça a à voir aussi avec cette question autour de l'intime, de l'intimité, qui est une question en plus sociétale très intéressante. Jusqu'où va encore l'intime dans nos sociétés, où on étale de plus en plus nos vies, jusqu'où on a encore besoin de ce secret, d'intime qui n'est pas partagé avec d'autres. Et puis voilà, c'est presque une espèce de nuancier, quoi, par rapport à ça. Quel type de quel degré, quoi, de secret, en fait, joue un rôle et existe dans nos vies. Et là, la question qui a présidé un peu à l'écriture du Bleu du Lac, c'était aussi de cette idée qu'on peut cette sensation et cette angoisse qu'on peut avoir quand on a quand on vit des choses de manière secrète. On a peur parfois que ça se lit sur notre visage, comme le bonheur, la jouissance, on se dit parfois bêtement, mais mon Dieu, les gens ne voient-ils pas que quelque chose a changé en moi? Enfin, tout le monde, je crois, a pu avoir cette idée qui nous a traversé l'esprit. Et Viviane, du temps où elle était donc la maîtresse, éperdument amoureuse de James, et parfois quand elle rentrait chez elle, elle se demandait si les gens n'allaient pas voir sur son visage qu'elle venait de jouir dans les bras d'un homme qui n'était pas son mari, mais qu'elle aimait éperdument. Et bien, de la même manière, ou d'une autre manière, ça c'est une des questions du roman, elle se demande si elle va pouvoir garder pour elle ce chagrin immense qu'elle a, parce que cet homme qu'elle a aimé tellement passionnément, il vient de mourir, et elle doit se rendre à son endroit. volontairement et jouer un morceau de Brahms à sa messe de funérailles. Et voilà, c'est en cela qu'en effet la question du secret m'a beaucoup intéressé pendant toute l'écriture du roman.
Alors vous nous offrez aussi un portrait incroyable de femme, cette Viviane en fait, dont les critiques disent d'elle qu'elle est l'Emma Bovary du piano, elle est taxée de sauvage homme, mais elle est aussi une femme qui peut en quelque sorte s'autoriser alors à penser que le deuil de son amant sera plus difficile à porter que celui de sa propre fille. Alors ça correspond à un instant T, hein, c'est celui de la tourmente et du vertige absolu. Une femme capable de penser au fait que la mort des parents peut aussi être un soulagement, un vrai. Une femme capable d'assumer quasiment avec les codes qui sont généralement donnés aux hommes. Par exemple, je pense à sa dévotion pour le corps et le sexe de son amant. Comment est-ce qu'elle est née, cette Viviane ?
C'est une femme libre, Viviane, et en fait j'entendais vraiment cette voix d'une femme libre. Alors elle est libre aussi dans un premier temps parce qu'elle s'est libérée par la musique. En fait, la musique permet ça aussi, de s'échapper vers des régions justement de nos émotions et de nos sensations en fait qui nous éloignent des conventions. Et puis j'ai choisi aussi une technique d'écriture, à savoir de ce qu'on appelle en anglais stream of consciousness technique, cette technique d'écriture inventée un peu par Virginia Woolf, popularisée par elle en tout cas, de suivre donc librement comme on dirait en libre association en psychanalyse la pensée de quelqu'un. Et j'ai voulu aussi, je crois, par cette façon d'écrire qui est propre à ce roman, hein, qui se distingue vraiment de ce que j'ai fait dans les précédents livres d'un point de vue stylistique, un point de vue vraiment presque technique, hein, oui, pour moi en tant qu'écrivain. J'ai voulu témoigner aussi de cette grande liberté des pensées et des émotions d'une femme, et de dire par là aussi que nos pensées profondes, nos émotions qui s'expriment comme ça librement, ne sont pas politiquement correctes. Oui. Donc on peut, comme vous dites, dans un instant penser que ce chagrin, il est plus lourd que le chagrin qu'elle a ressenti en perdant sa fille. On peut penser que on est finalement soulagé parfois de perdre des parents parce que ça crée un espace de liberté. Ces choses-là, tout le monde les pense. Et socialement, ces pensées-là ne sont pas audibles. On ne peut pas les dire, ce n'est pas politiquement correct, c'est quelque chose qu'on ne soutient pas, ces pensées-là. Mmh. Et en littérature, on peut se permettre de dire des choses comme ça, quand on, encore une fois, suit la voie intérieure d'une femme libre, comme les Viviane.
Oui, tout à fait, c'est ça. Jean Materne, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui dans Rock and Page. Merci surtout pour votre roman. Vous ne coupez pas à la question de l'émission. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer votre roman sans en parler?
C'est une chanson de Irving Berlin qui est tirée d'une comédie musicale qui s'appelle Hanging at Your Gun, interprétée par Laurent Groff. Non, comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Jonathan.
Jonathan Groff.
Merci.
Pardon, oui.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Please welcome Jonathan Groff.
Don't ask me just how it happens. I wish I knew. I can't believe that it happened. And still, it's true. I got lost in his arms. And I had to stay. It was dark in his arms, and I lost my way. From the dark came a voice, and it seemed to say, there you go, there you go. Just can't recall, but his arms.
C'était I Got Lost in His Arm d'Irving Berlin, tiré de la comédie musicale Annie Get Your Gun, interprété ici par Jonathan Groff et choisi aujourd'hui par Jean Materne pour évoquer son roman Le Bleu du Lac, paru tout récemment chez Sabine Weisbisser. Avant de refermer ce numéro de Rock'n'Page, laissez-moi vous dire que Le Bleu du Lac est un roman à l'élégance rare et la radicalité totale. Viviane Gray est une héroïne, une vraie. Materne nous interroge tout à la fois sur ce qu'est la vérité, sur l'amour, le couple aussi. Materne nous donne à ressentir la musique classique et son univers, son microcosme, la solitude aussi du musicien. Le Bleu du Lac est un voyage à l'intérieur et il est une écoute au casque. Il offre le vertige de se voir acquiescer de nombreuses fois et de toucher les parois de la prison que doit supporter désormais Viviane. Un tour de force en somme, ces 115 pages pour un trajet de métro, aux côtés d'une femme qui se souvient, qui a peur de ne plus se souvenir, qui raconte, dont la robe gratte, qui a chaud, qui ne trouve plus de sens, qui vient de perdre l'homme qui lui permettait d'exister au-delà encore de ce qu'elle le fait. Cet homme venu de nulle part, ou plutôt de tout en bas de l'échelle, cet homme dont elle n'a jamais rien su, sinon son trouble pour cette baignade nue dans un lac, cet homme boxeur à ses heures perdues, grand critique médiatisé de musique classique, ce James Fletcher mystérieux. C'est un roman que j'ai lu presque en apnée, que je le relirai, c'est certain, un roman qui restera de cela aussi, je suis certaine. Je vais vous laisser en compagnie de Anne Brun qui reprend Out Disappear Completely de Radiohead encore une fois. Notez que je n'ai choisi que des interprètes femmes pour vous dire encore quelques minutes. Ce roman Le Bleu du Lac de Jean Materne et cette Viviane Gray, son personnage, qui comptera désormais parmi les personnages qui m'accompagnent moi. Avant de vous quitter complètement, je n'ai qu'une seule annonce à fournir pour la comédie du livre. Il s'agit de la rencontre autour de SOS Méditerranée. Elle réunira sur un plateau Alain Damasio, Alex Kahn et François Bonne. Ce sera le 26 mai à 10h au Centre Rabelais. Et il y sera question de l'engagement et de l'importance de l'engagement des auteurs et de la littérature dans des causes. Vous connaissez très bien SOS Méditerranée puisqu'il en a été question plusieurs fois dans l'émission. Ce sont ce mouvement citoyen qui permet, grâce à ce navire qui est désormais célèbre, qui s'appelle l'Aquarius, qui permet donc de repêcher en mer, partout en Méditerranée, les migrants et puis de les aider à trouver une solution pour l'après. Merci à Bruno de Divergence FM qui a réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous même heure, même place la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Hurricanes.
this isn't happening. I'm not here. I'm not here.